Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz, avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute.
Raconte-moi un arrêt, une émission de Tania Rachaud, produite par Amicus Radio.
Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Au programme du jour, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme rendue en grande chambre le 27 mars 1996, l'affaire Goodwin contre Royaume-Uni, et nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir Monsieur Goodwin pour en discuter avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, pour se situer, la Cour consacre dans la décision Goodwin contre Royaume-Uni la protection des sources journalistiques comme l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Une protection des sources qui est donc protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui porte sur la liberté d'expression. Au moment de notre enregistrement, la question de la protection des sources est toujours d'actualité en France. Effectivement, Ariane Lavrieux, une journaliste de Disclose, a été en garde à vue en raison de son travail d'investigation sur un possible détournement d'une mission française de renseignement en Égypte, une mission censée prévenir des actes terroristes mais qui aurait peut-être servi à vendre des armes à la dictature égyptienne. Revenons donc à notre décision des années 90. Monsieur William Goodwin, qui est donc de nationalité britannique, est un journaliste résident à Londres qui débute un stage à The Engineer et qui reçoit des informations sur les difficultés financières d'une entreprise qui est appelée Tetra. Mais il s'avère que les informations qui ont filtré, qui lui sont parvenues donc, proviennent de documents confidentiels, des documents imprimés en peu d'exemplaires, dont l'un d'eux avait été dérobé. Et donc, M. Goodwin contacte Tetra pour confirmer les informations de sa source, et Tetra va donc saisir la justice à l'encontre de la potentielle diffusion des documents confidentiels. Le juge britannique demande alors à The Engineer et son journaliste, M. Goodwin, de produire les notes de la conversation téléphonique qui révéleraient l'identité de la source. Alors, on va en parler donc avec M. Goodwin directement. So, M. Goodwin, thank you for being with us today and talking about this decision on the question of the protection of the sources. Maybe first of all, you were a young journalist by then. I understand that you received a super injunction to hand out your notes on your conversation. How did you react? What did it feel like?
C'était mon premier job en tant que journaliste, et ça ne faisait que quelques mois. J'ai reçu une injonction, une super injonction, qui arrivait par fax à l'époque. À ce moment-là, je ne réalisais pas vraiment à quel point c'était sérieux. Tout le monde se disait simplement que c'était pas ordinaire et qu'on ne voyait pas souvent passer des injonctions. Mais je me suis vite rendu compte que c'était assez sérieux. J'ai été convoqué à une réunion du conseil d'administration de United Newspapers, le groupe de presse britannique auquel appartenait The Engineer. Et c'est là que mon éditeur m'a dit pour la première fois que je pourrais aller en prison si je ne révélais pas ma source. À ce moment-là, c'est devenu très sérieux. Par ailleurs, l'injonction que j'avais reçue me forçait à garder tout ça secret. Je ne pouvais même pas dire que j'étais impliqué dans une affaire juridique, ni à mes parents, ni à mon syndicat.
I guess it was stressful indeed. So, what happened next after this super injunction?
Très rapidement, je me suis retrouvé à devoir aller au tribunal. Il y avait beaucoup d'audiences, et au départ, j'étais représenté par les avocats de l'entreprise. Mais assez vite, il s'est avéré que j'aurais besoin d'avoir mes propres représentants. Parce qu'il y avait une menace de la part de Tetra de demander au tribunal de geler les fonds de l'entreprise qui m'employait. À ce stade, il me fallait donc des représentants séparés. Et l'entreprise m'a même écrit pour me demander de révéler mes sources. Je pense qu'ils savaient très bien que je ne le ferais pas, mais qu'ils étaient légalement obligés de le faire. Donc, il me fallait vraiment mes propres avocats.
Yeah, okay. So you stayed straight and not revealed your source. I guess that was not the easiest decision.
Les premières audiences étaient confidentielles et les journalistes n'y avaient pas accès. Mais au bout d'un moment, on a réussi à faire annuler la super injonction et j'ai eu le droit de parler de l'affaire. On a perdu les premières étapes, on a perdu auprès du tribunal de grande instance à Londres, ce qui nous a mené devant la cour d'appel. Le président de la cour d'appel, Lord Donaldson, le Master of the Rolls, a affirmé qu'il n'entendrait mon appel que si je lui confiais mon carnet de notes en avance, pour qu'il le garde dans une enveloppe scellée qu'il n'ouvrirait que si je perdais l'appel. J'ai décidé de refuser parce que ça pourrait révéler ma source, et mon appel a donc été rejeté, ce qui a emmené l'affaire devant la Chambre des Lords. Et plus on monte dans le système judiciaire anglais, et plus les juges semblent véhéments, belligérants. Donc dès le départ, avant même le début des premières audiences, il nous a semblé assez évident qu'on allait perdre devant la Chambre des Lords. Il y avait des tentatives intéressantes de créer un précédent juridique. Le juge Lord Huffman a essayé de m'ordonner de signifier une injonction verbale, directement à ma source. C'était une décision très difficile que j'ai dû prendre en un week-end. Et finalement, j'ai décidé de ne pas le faire.
So I guess after the House of Lords, you decided to seize the ECHR, or maybe your barrister said that there was an opportunity to go before the European Court of Human Rights.
Oui, après la Chambre des Lords, initialement, mon employeur allait faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais tout ça est devenu politique. Et il y avait beaucoup d'antipathie à l'époque envers les syndicats. Et mon entreprise a changé d'avis. Mon syndicat, le National Union of Journalists, a décidé de payer pour que l'affaire aille jusqu'à la Cour européenne.
Okay.
Les frais d'avocat et de toute l'équipe juridique. J'ai eu beaucoup de chance.
Alors à l'époque, il faut aussi rappeler qu'il y avait un premier filtre par la Commission européenne des droits de l'homme qui se positionnait sur la recevabilité, qui avait admis cette recevabilité. Et donc par la suite, le requérant, donc M. Goodwin, s'est plaint de l'ordonnance de divulgation qui le sommait de révéler l'identité de son informateur et d'une amende qui lui avait été infligée pour ce refus d'obtempérer et qui donc portait une violation à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. So you challenged both the request to reveal your source and also the bill that you had to pay because you lost your cases.
Oui, on a demandé réparation. Le principal était d'attaquer l'ordre, de révéler l'identité des sources. C'était une affaire importante, parce qu'elle établissait pour la première fois que le droit pour les journalistes de protéger leurs sources est une partie fondamentale de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article sur la liberté d'expression. Et ça n'avait pas été établi avant. Un de nos arguments était que, après les décisions qui avaient été rendues dans cette affaire, il n'y avait pas de vraie promesse qu'un journaliste puisse faire à ses sources. Et on a demandé au gouvernement de répondre à cette question, de dire ce qu'un journaliste pouvait promettre à ses sources. Et ils n'ont rien produit de concluant, ils ont répondu par une construction assez alambiquée, du genre « sauf dans tel ou tel cas particulier, sauf si le tribunal dit ci, sauf si le tribunal dit ça ». C'était complètement irréaliste. Finalement, la Cour a admis pour la première fois, que la capacité des journalistes à donner des garanties à leurs sources était une part essentielle de l'article 10, et donc de la liberté d'expression. C'était une décision importante, qui a eu des ramifications dans le reste de l'Europe et auprès de tous les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme.
Indeed, indeed, it is a very important decision that all students have to know about. Donc c'était pas une décision évidente, mais une décision qui a été très nécessaire dans les années 96. Je rappelle aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, pour prendre cette décision, a suivi sa trajectoire habituelle sur l'examen de l'article 10, paragraphe 2. Et donc, elle a d'abord confirmé que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime aussi, cette ingérence, celui de protéger les droits de l'entreprise Tetra. Et c'est évidemment au cours de la troisième étape classique d'examen que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il y avait une difficulté, puisqu'elle a estimé que l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique. C'est-à-dire, il faut absolument protéger les sources, sinon, et c'est ce que M. Goodwin nous expliquait, l'absence d'une telle protection de sources pourrait dissuader ces sources de venir s'exprimer, de venir parler à des journalistes, et donc d'aider la presse à informer le public sur les questions d'intérêt général. La Cour européenne des droits de l'homme estime que les journalistes et la presse ont un rôle indispensable de chien de garde dans la démocratie, et donc il faut protéger à tout prix. So tell me, what happened also after the decision of the ECHR? So it was a central and essential decision. What happened for you and what happened maybe in the UK on the question of protection of sources?
So I think since that decision, there have been a number of...
Je pense que depuis cette décision, il y a eu un certain nombre d'affaires concernant les sources au Royaume-Uni qui ont toutes cité la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant mon affaire. Et je suis assez certain que ça a aidé à protéger les journalistes et leurs sources. La loi anglaise reconnaît maintenant le fait que les sources confidentielles et aussi le matériel journalistique confidentiel devraient avoir un certain niveau de protection. Les journalistes ne sont plus automatiquement obligés de révéler leurs sources. Je ne pense pas que la loi soit parfaite, mais il y a eu une grande amélioration.
Ce n'est pas toujours parfait, il y a encore des choses à faire, et je pense qu'on peut le reconnaître aussi en France, avec donc cette affaire récente pour la journaliste Ariane Lavrieux. Mr. Goodwin, maybe do you have something to add before we close the episode?
Yes, and I would say for any journalist who gets caught up in a case like this,
je recommanderais à tout journaliste qui serait pris dans une affaire semblable de chercher du soutien, que ce soit auprès d'un syndicat ou une assistance légale, en tout cas. C'est une situation très difficile et très stressante. Et je pense que ça pourrait être très difficile pour un journaliste freelance, par exemple, à moins d'avoir le soutien de son journal ou d'un syndicat. Personnellement, pendant l'affaire, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, de fax, de cartes, de la part de collègues journalistes. Et psychologiquement, ça m'a beaucoup aidé à résister à la pression, à savoir que je faisais ce qui était juste. Donc je leur dirais vraiment de chercher de l'aide et du soutien aussi vite que possible.
I guess it was indeed very complicated, and if you're lonely, as you're saying, then you might want to, yeah, give the name of the source so you can move on to another subject. But you were at the center of an essential case, and thank you for that. Thank you so much for sharing all of this with us. It was a pleasure to talk with you today, Mr. Goodwin, and thank you also for this ECHR case.
Thank you so much, Tanya. It's been a pleasure to talk to you.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial avec Monsieur Goodwin dans l'arrêt Goodwin contre Wyoming de 1996. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast. En vous abonnant d'ailleurs, vous serez alerté des nouvelles sorties et vous pourrez aussi retrouver les podcasts sur les sites internet d'Amicus et des Surligneurs.